Studio Tamani, voici les informations en français.
Le Haut Conseil des collectivités échange depuis ce matin sur le bilan de la décentralisation au Mali de 1999 à nos jours. Ses responsables vont identifier les acquis et les difficultés rencontrées pour une meilleure consolidation du processus. La coordination des affaires humanitaires au Tchad alerte sur la croissance du nombre de personnes en situation de crise au Mali. Au Tchad, dans son bulletin bimensuel, note que ces personnes sont en grande partie au centre et au nord du Mali. La région de Saint vibre au rythme de la pêche collective de sang ou cinq aimants. Avant l'ouverture officielle, la ville est en train d'accueillir les festivaliers. À l'instant, le sommaire de cette édition. Dans un instant, les détails avec Hamsé Toutouré. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Je l'annonçais à l'instant dans les titres. Quel bilan dressé du processus de décentralisation au Mali de 1999 à nos jours? La question était au centre d'un atelier organisé par le Haut Conseil des collectivités ce matin 5 juin à Bamako. La rencontre est placée sous le thème décentralisation au Mali de 1999 à nos jours. Bilan et perspective. Il s'agit de faire le diagnostic de la décentralisation au Mali, identifier les acquis et les difficultés rencontrées. C'est là pour une meilleure consolidation du processus au Mali. Les détails avec Jiadata Maïga.
Le président du Haut Conseil des collectivités se félicite des avancées énormes enregistrées dans la mise en œuvre de la décentralisation. C'est là, malgré les crises sécuritaires et politiques. Il cite comme exemple la fourniture des services sociaux de base aux populations. Mahamadou Satigui Diakité, président du Haut Conseil des collectivités.
Après plusieurs décennies de sa mise en œuvre, le processus de décentralisation a enregistré d'importants acquis, notamment en matière d'éducation, de santé, d'eau potable, d'assainissement et des réalisations de nombreux équipements marchands. Notre politique de décentralisation a été affectée par de nombreuses crises politiques et sécuritaires ayant impacté sa mise en œuvre.
Malgré ces acquis, les participants à cet atelier ont fait plusieurs recommandations pour améliorer la décentralisation au Mali.
En matière de décentralisation, le Mali est le premier en Afrique de l'Ouest. Mais il y a beaucoup à améliorer. C'est d'abord le recouvrement des impôts, des taxes. Il faut la formation des élus et des agents. Les citoyens ne sont pas informés de ce qui se passe.
C'est de donner aux communes toutes les ressources qui sont liées aux compétences transférées.
La décentralisation favorise l'accès des femmes aux différents postes politiques. Et les femmes s'engagent plus.
Rappelons que c'est en 1992 que le Mali a opté pour la décentralisation systématique de l'ensemble de son territoire. L'organisation des élections communales en 1999 a marqué le début du processus de mise en œuvre de la décentralisation dans le pays.
Pour Amagouin Keïta, directeur exécutif du groupe Odyssée, la décentralisation est une réalité au Mali. Selon ce spécialiste de la recherche sur les dynamiques territoriales et la gouvernance locale, il y a eu des acquis notables en matière de décentralisation au Mali, 23 ans après son institution. Il est joint par Ali Cissé.
Il s'agit d'abord de l'émergence de l'institution communale, de l'institution conseil régional sur l'ensemble du territoire. En plus de cela, il faut dire que les transferts de compétences au niveau des collectivités territoriales ont permis de rapprocher davantage les services publics auprès des citoyens. Grâce à la décentralisation, il y a aujourd'hui un débat sur les politiques publiques au niveau local, un débat qui met en face les élus et les électeurs. Je pense que les collectivités territoriales, pour se rendre encore plus utiles aux yeux des citoyens, doivent prendre en compte les préoccupations des jeunes, doivent se rapprocher davantage des jeunes.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X, anciennement Twitter. Le secrétaire général du syndicat national des banques et établissements financiers du Mali, Hamadou Nba, a été arrêté ce mercredi 5 juin 2024 à Bamako. En signe de protestation contre cette arrestation, les membres du bureau exécutif du SINABEF ont décidé d'observer un arrêt de travail de 3 jours à compter de jeudi 6 juin 2024. Le comité syndical demande à toutes les entreprises et établissements affiliés au SINABEF de respecter le le mot d'ordre d'arrêt de travail. Autre titre de ce journal, 1,3 million de personnes seront en situation d'insécurité alimentaire entre juin et août 2024. C'est du moins ce qui ressort du bulletin bimensuel du Bureau de la coordination des affaires humanitaires OCHA, publié en mai dernier. Ce département du secrétariat de l'ONU indique qu'entre novembre 2023 et mars 2024, le nombre de personnes en situation de crise a triplé dans les régions du centre et du nord du Mali. Ce bulletin bimensuel révèle que plus de la moitié des 7,1 millions de personnes ayant besoin d'aide humanitaire au Mali en 2024 sont des enfants. Ali Cissé.
Dans cette note qui couvre la période d'avril à mai 2024, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU indique que le nombre d'individus en situation d'urgence est passé de près de 16 000 à plus de 60 000 personnes au nord et au centre du Mali. Il s'agit des régions de Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal et Taoudeni. Les impacts les plus graves sont attendus dans les régions de Menaka et Kidal, où les mouvements de population se poursuivent avec un accès humanitaire limité, révèle le document. Toujours selon les analyses du cadre harmonisé. Les régions du nord et du centre du pays abritent plus de 55% de la concentration de personnes en insécurité alimentaire au mois de mars. Cela à cause des déplacements importants des populations, des mauvaises récoltes et de la situation sécuritaire. Au mois de mai 2024, le secteur de la sécurité n'a reçu que 10% du financement requis pour la réponse humanitaire, contre 12% en 2023. C'est le taux de financement le plus bas depuis le début de la crise en 2012, commente le rapport.
Partons à présent dans la région de Sang. Nous sommes à quelques heures de la pêche collective appelée Sankémo, un moment très attendu. Et déjà, c'est l'engouement dans la ville de Sang. Des ressortissants sont venus de partout pour témoigner leur attachement à ce grand événement culturel. Depuis Sang, nous retrouvons notre envoyé spécial, Maman Baba Kunta.
Souleymane Meïga est à sa première participation à ces rendez-vous culturels. Venu directement de Bamako, il se dit impatient d'être à la mare de Sanké pour participer à la pêche collective.
C'était ma première fois même d'entendre le mot Sankémo. J'avoue vraiment, c'est une activité qui valorise vraiment la culture d'abord locale et la culture malienne de façon générale. Je suis là très impatient, très excité. J'attends le jeudi pour pouvoir voir comment est-ce que ça se passe, pour aller raconter ça à la maison.
Chaque année, des centaines de Sanois participent à cette fête traditionnelle. Pour eux, ce rendez-vous a aussi des avantages spirituels.
C'est notre coutume, en fait. Nos grands-parents ont fait, donc nous sommes les enfants, on est obligés aussi de faire comme nos parents.
Malgré mes études, je continue de venir chaque année pour aider mes amis et surtout à magnifier l'événement.
Notons que dès ce soir, à partir de 20h, de grandes manifestations folkloriques et populaires seront organisées dans les villages de Terekungo et à Parana. Maman Baba Kunta, depuis Sang pour Studio Tamani.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, Eurtel, financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
L'opération de vente de riz subventionnée par l'État a été officiellement lancée ce mardi 4 juin 2024 par le ministre commissaire à la sécurité alimentaire dans les locaux de l'OPAM. Cette phase concerne les régions de Kaï, Gao et le district de Bamako. L'opération sera élargie dans les jours à venir. Cependant, dans les localités qui en bénéficient déjà, les populations s'expriment sur l'initiative. Leur réaction dans la rubrique « On en parle ».
Un sac de riz où il faut des papiers pour l'avoir, on n'est même pas parti chercher. On achète les sacs de 50 kilos de riz à 30 000 francs, les petits sacs à 15 500 francs.
En ce qui concerne le riz là, il y en avait, mais après ça a disparu. Chaque fois quand tu demandes, soit on te dit que c'est fini ou bien qu'ils n'en ont pas.
Les gens disent qu'on peut avoir ce riz à l'OPAM de Kaï. Si le gouvernement pouvait aussi ouvrir un magasin à Bafoulabé, cela permettrait aux populations d'avoir ce riz à moindre coût. Aujourd'hui, nous cédons le sac de 50 kilos à 23 500 francs CFA.
Je suis content, c'est une bonne initiative.
À Kaï, c'était pendant le Ramadan. Cette initiative a été un ouf de soulagement pour nous, les consommateurs. Cependant, nous avons constaté que les prix ont augmenté.
Dans la rubrique Zoom sur d'aujourd'hui, Nous parlons des changements de comportement dans la société. Il est de constat que certaines personnes changent de comportement une fois qu'elles voient leur statut social amélioré. Et c'est avec Assetou Kanté.
Khalifa est un agent d'une grande société de la place. Son ami Amara est un débrouillard. Les deux sont très proches et se côtoient tout le temps. Rarement, on voit l'un sans l'autre, mais la chance ne sourit pas à tout le monde. Amara, un simple débrouillard, décroche un poste important dans une entreprise. Khalifa, heureux pour son frère, ne sait pas qu'Amara va vite disparaître de la circulation. 3 mois après, impossible de voir Amara. Khalifa le cherche partout. Il n'est pas joignable au téléphone non plus. Furieux, notre cher Khalifa débarque chez lui. Tenez-vous bien. Il déverse toute sa colère sur Amara. Bidessera, tu oublies trop vite des... Tu es boss maintenant. Je ne suis plus de la même classe sociale que toi. Dieu te voit, hein. Amara se défend avec des arguments liés à la charge de son nouveau poste, mais peine perdue. Khalifa se voit comme ami et frère rejeté. Notons que les observateurs conseillent de ne jamais se voir supérieur aux autres quand on change de statut social, car la vie est pleine de surprises.
À présent, nous retrouvons Sékou Gadjigo pour l'introduction du Grand Dialogue. Bonsoir Sékou.
Bonsoir Amsetou.
Alors ce soir, nous avons un invité spécial.
Tout à fait, il s'agit de Monsieur Pascal Perenec, le chef de la délégation de l'Union Européenne au Mali, qui est notre invité aujourd'hui. Il va répondre à beaucoup de questions, des questions posées par des auditeurs de Studio Tamani notamment.
C'est noté Sékou, et c'est ce qui referme ce journal, une présentation de Hamsetou Touré. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, le magazine. Les souris et les rats sont de plus en plus présents dans les concessions et dans les lieux publics. D'ordinaire, ils sont cachés dans les égouts, mais désormais ces rongeurs cohabitent avec les personnes. Et pourtant, l'urine, les excréments ou encore les morsures des rats peuvent provoquer des maladies dangereuses pour la santé, préviennent les spécialistes. En plus, ils sont à l'origine de nombreux dégâts domestiques. Des vétérinaires expliquent que la prolifération de ces rongeurs est due en partie à la mauvaise gestion des déchets ménagers. Qu'est-ce qui explique l'invasion des rats et souris et quelles sont les conséquences, les explications dans ce magazine santé réalisé par Khalifa Goïta.
Au moins, chacun d'entre nous a une fois entendu ce bruit dans nos maisons et alentours. Leur présence est source de panique, mais aussi ces nuisibles n'épargnent presque rien. Les habits, les fils électriques et même les câbles de voiture, pour ne citer que ceci. Les populations qui cohabitent avec ces rongeurs sont excédées par leur présence. Des réactions recueillies à Bamako, Ségou et Kadjolo.
Les rats peuvent faire effondrer une maison à cause des trous qu'ils creusent et déchirent le plus souvent nos billets des banques.
Ils se promènent dans nos cuisines, c'est pourquoi nous adoptons des chats.
Les raticides ont montré leurs limites. Nos armoires sont saccagées et nos habits troués.
Ils détruisent aussi nos documents importants. Lutter contre ces rats doit être un effort collectif, sinon unilatéralement c'est peine perdue.
Le jeune Madou Koïta que nous avons croisé à Bolibana, en commune 3 du district de Bamako, fait le commerce des produits anti-nuisibles. À 10 heures, il a des raticides en main, prêt à commencer sa journée. Il vend ses articles depuis 4 ans. Il indique que cette activité lui profite bien.
Les marques de raticides, je les commercialise sur les voies, dans les rues et dans certains bureaux. La recette journalière atteint 5 000 francs. L'activité est un peu rentable aujourd'hui.
Malgré ses astuces pour éradiquer ces envahisseurs, les souris et les rats restent visibles et infestent presque toutes les familles. Et pourtant, ils sont aussi porteurs de maladies dangereuses pour l'homme. Moustapha Touré, chef de division surveillance et protection sanitaire à la direction régionale de services vétérinaires du district de Bamako.
La présence de ces bestioles-là pose énormément de problèmes dans la contamination des agents pathogènes des maladies animales. Les maladies humaines, elles sont nombreuses. Maladies virales, bactériologiques et des maladies parasitaires. Dans le siècle passé, la peste humaine a été provoquée par la présence des rats. Ça a fait des rats l'esclavage, pathologie, c'est les rongeurs à déclaration obligatoire. Il y a une loi qui le dit. Une fois que le truc est détecté, nous sommes obligés de prendre des dispositions.
Monsieur Touré prévient également qu'un mauvais usage des raticides dans les domiciles et autres lieux peut être aussi source de maladies. Il ajoute qu'une bonne gestion des déchets peut réduire la présence massive des rongeurs.
Par principe, tout produit chimique a une conséquence sur la santé de l'homme. L'utilisation des pesticides, d'une manière générale, sont gérés par une loi qui n'admet pas tous les produits chimiques. C'est utilisé dans nos maisons sans protection. Tu leur donnes une tasse de thé, ils prennent, ou bien ils mangent. Mal utilisé, ça peut amener une intoxication qui peut même être mortelle.
La Direction générale de la santé et de l'hygiène publique, pour sa part, indique que des actions sont menées et se poursuivront pour minimiser la prolifération des rats et souris. Mamadou Daouda Konaté, chef de la division hygiène publique et salubrité à la Direction régionale de la santé du district de Bamako.
En début d'année, on a eu à faire une large campagne de lutte antibactérielle, notamment celle contre la dengue. C'était une activité de pulvérisation d'intoxicides et on l'a associée avec la lutte des rongeurs. On a eu à faire des appâts avec des raticides au niveau des caniveaux, partout où nous pensons que ça peut être les nids des rats, dans les 6 communes du district de Bamako, pour réussir à diminuer la population des rats. Je pense que ça porte fruit.
En attendant de constater un réel impact, des citoyens continuent de subir les dégâts causés par ces rongeurs.